Bonjour, ici Émilie du blog Éveillé Nature. Aujourd'hui, je vous propose un article que j'ai intitulé « Choisissez la cour d'école de votre enfant ». Et oui, voilà, imaginez, aujourd'hui, on vous donne tous les pouvoirs pour aménager la cour d'école de votre enfant, exactement comme vous le souhaitez, de la façon qui vous semble la plus propice à ses jeux, à son bien-être, à son développement, mais aussi bien sûr à ses apprentissages à l'école, c'est vous le maître d'œuvre. Bon, génial, alors qu'allez-vous proposer ? Eh bien, si vous avez l'occasion de jeter un œil à mon article, je vous invite à choisir parmi les 10 photos qui illustrent cet article et de voir laquelle représente le mieux votre projet. Bien, prenez le temps de réfléchir parce que tout de même, votre enfant, il passe du temps dans la cour de son école. Beaucoup de temps, en fait. Combien de temps, d'ailleurs ? Alors, si on se base sur 2 récréations quotidiennes de 20 minutes... auquel on ajoute 10 minutes d'accueil le matin et puis l'après-midi, peut-être aussi le temps d'une pause méridienne, voilà, ça fait entre 1 et 2 heures par jour de temps passé dans la récréation à l'école. Tiens, ça me rappelle, oui, vous savez, il est recommandé de permettre aux enfants de jouer librement dans un espace de verdure au moins 1 heure chaque jour. Ah, cela évite les méfaits du syndrome de manque de nature. Bah là vous vous dites peut-être, ben justement la verdure dans la cour d'école de mon enfant, c'est pas trop ça. Voilà, bon bah zut. Alors, mais comme aujourd'hui, vous allez tout réformer, il n'y a plus de soucis à se faire. Bien, tout de suite je vous propose une étude suédoise pour vous guider dans vos choix d'aménagement. Bien sûr, vous avez raison de penser qu'il va y avoir un parti pris dans le choix de l'étude que je vais vous proposer pour éclairer votre travail. Mais bon, il n'en reste pas moins que j'ai choisi une étude qui a été réalisée selon un protocole scientifique parfaitement rigoureux. Il s'agit du travail mené par le Suédois Gran et son équipe en 1997. Voici ce que nous apprend cette étude. Eh bien, en fait, 2 crèches ont été étudiées pendant 1 an. L'une avait un extérieur des plus classiques. Imaginez un sol plat et lisse, du gazon, des aires de jeu bien délimitées, un parterre de fleurs, etc. Bref, un peu comme la plupart des cours de nos écoles maternelles, par exemple. Et l'autre avait un espace extérieur qui avait été conçu pour permettre aux enfants d'être au plus proche de la nature. Vous savez, avec un jardin sauvage, des grands arbres, des rochers, un petit bosquet, un sol irrégulier, une grande surface de sable, des balançoires, des cordes aussi, etc. Sinon, les 2 crèches étaient comparables sur tous les autres points. Il y avait la même surface de terrain, le même nombre d'enfants, les mêmes catégories socio-professionnelles, la même réputation, etc. Les enfants avaient entre 3 et 7 ans. On a étudié leurs compétences dans de nombreux domaines de développement. Et ben, vous savez quoi ? Les enfants qui fréquentaient la crèche, qu'on va dire naturelle, avaient de meilleurs résultats au test dans tous les domaines de développement. Par exemple, ces enfants arrivaient mieux à se concentrer, étaient plus agiles, étaient moins souvent absents pour cause de maladie, étaient plus créatifs dans leur jeu, arrivaient mieux à résoudre les conflits. Et puis, également, ils étaient moins distraits, ils étaient plus à l'écoute, ils coupaient moins la parole, et pour finir, ils avaient moins d'accidents et semblaient moins agités. Voilà, rien que ça. Par le simple fait de passer du temps chaque jour dans un espace de jeu varié et empreint de nature. Voilà qui peut laisser songeur. Maintenant, je vais vous partager mon constat d'enseignante. En fait, les cours d'école, ben, je peux vous en parler, puisque en cette année, voilà, j'ai enseigné pendant 7 ans, et j'ai eu le plaisir pendant ces 7 ans de fréquenter à peu près 50 écoles différentes, puisque ben, j'ai notamment été maîtresse remplaçante, donc j'ai un peu voyagé. Donc je peux vous parler de ce que j'ai pu observer, en l'occurrence dans la Drôme. Eh bien, premièrement, j'ai observé de plus en plus de goudrons. Eh oui, alors propre et uniforme, irréprochable, le goudron neuf et lisse. C'est l'habit de choix des cours d'école. Voilà, au moins les pieds des enfants, ils restent propres, hein, vous avez pensé au ménage. Ils arrêtent de trébucher, ces enfants, mais bon. Rappelez-vous tout de même que dans notre crèche dite naturelle, la motricité des enfants est plus développée, donc ils trébuchent moins. Mais voilà, avec le goudron, tout le monde semble content. Les enfants, ben, ils s'en accommodent, hein, ils jouent au foot, ils jouent avec leurs cartes Pokémon. Mais je veux bien croire qu'ils sont moins créatifs. Et aussi qu'il y a plus de conflits. Voilà, qu'est-ce que j'ai observé aussi ? Eh bien, de moins en moins de terrains variés. Bah oui, vous savez, le sable, ça fait déraper, les cailloux, bah, ça se lance, la terre, ça colle, tout ce qui dépasse, on peut se cogner dessus. On les trouve belles, les fleurs. Ah oui, les fleurs, on les trouve belles, alors on les met à l'écart et puis ben, c'est interdit d'y toucher. Les enfants aiment bien gratter la terre, jouer dans les petits trous, marcher dans les flaques. Bon, mais après leurs vêtements sont sales et mouillés. Ah, l'épineuse question des vêtements. Comment allez-vous l'intégrer dans votre projet, vous lecteurs, qui allez remodeler votre cour d'école? Voilà, parlons maintenant des petits coins dans lesquels les enfants peuvent se cacher. Alors, bah, un de ces jours, peut-être que je vous parlerai d'une étude qui démontre les compétences que développe l'enfant lorsqu'il n'est pas toujours directement sous le regard de l'adulte. Mais en tout cas, vous avez constaté comme moi que, voilà, nos petits, ils adorent se cacher dans des petits coins. Et le problème, c'est qu'il est un peu moins facile de les surveiller quand ils sont dans leurs petits coins. Alors, bah là encore, dans les cours d'école, on supprime. Enfin, non. En fait, il reste des petits coins homologués, hein, par exemple, les cabanes en plastique. Voilà. Bon, c'est déjà ça. Et parlons de la terre et des plantes. Qu'en est-il dans les cours d'école? Oh là là! La terre, c'est sale. Alors, on supprime la terre aussi? Voilà, souvent oui. Souvent oui, on supprime la terre aussi. Et j'ai malheureusement fréquenté plusieurs cours d'école dans lesquels il n'y avait ni gazon, ni arbre, ni terre, ni rien. Que du bitume. Alors, bah du coup, on distribuait des cordes à sauter, des petits vélos aux enfants pour qu'ils se dépensent quand même. Voilà. Alors bon, cependant, quand même, dans de nombreuses écoles, il y a par exemple des projets de jardinage. Bon, ce sont souvent des petits laboratoires de poche, hein, ces jardins qui permettent d'observer la croissance de quelques plantes, mais c'est déjà une sacrée source d'émerveillement pour les enfants. Alors ces petits coins, bah, ils sont, ces jardins, ces petits jardins sont en général placés sur le bord de la cour ou alors dans un recoin. Voilà, on espère comme ça bah, préserver un peu les plantations de toutes ces petites mains ravageuses. Et c'est-à-dire que bah, les enfants n'ont en général pas le droit d'y accéder en dehors des séances encadrées. Bon, moi je ne souhaite pas ici émettre sur ce point un jugement de valeur. Je pense que la critique est facile, alors que des petites initiatives, comme par exemple créer un petit jardin dans une école, ça demande déjà beaucoup d'efforts. Par contre, je me doute tout de même que si l'espace végétal dans la cour d'école était majoritaire, bah, les petites mains des enfants, oui, elles testeraient la résistance des feuilles sur d'autres plantes que celles qui sont dans les plates-bandes. Voilà, du coup, il serait sans doute plus nécessaire d'interdire aux enfants de s'approcher des cultures du jardin. Bon, alors tout de même, je peux aussi témoigner, heureusement, de quelques cours qui sont dignes de celles de notre crèche naturelle suédoise. Hein, après avoir brossé ce bien noir tableau, voilà, je vais quand même évoquer quelques cours d'école qui ont encore un terrain varié et végétalisé. En fait, il y en a quand même peu, de manière relative, mais il y en a. Donc, c'est que c'est possible. Alors, la première à laquelle je pense, elle était dans un petit village, dans le Vercors. Voilà, donc côté nature, les enfants, ils sont servis là-haut. Cette cour d'école, elle a un jardin qui est clos d'un muret en vieille pierre. Il est abrité sous un gros tilleul. Voilà, les enfants, bah, ils aiment beaucoup. Ils passaient du temps, ils sont à l'affût des lézards, des petites bêtes. Ils entendent les cloches des vaches. Enfin, voilà, je vous laisse imaginer. Bon, ils n'ont quand même pas trop le droit d'escalader le muret en pierre, hein. Et à ce propos, juste après, je vous parlerai rapidement de la responsabilité des enseignants en cas d'accident. Une autre cour d'école à laquelle je pense, qui était immense, avec une grande pelouse en pente, et les enfants passaient leur temps à dévaler cette pelouse en pente en roulant, et cette simple pente était vraiment une source de beaucoup beaucoup de jeux. Je pense à une troisième école. Alors elle était vraiment encerclée de buissons. Et les enfants, ils étaient dans les buissons. Donc ils vivaient leurs petites aventures cachées dans les buissons. Alors évidemment, nous, on savait bien où les trouver en cas de besoin. Mais je me souviens que quand même, dans cette cour d'école, eh bien, il y avait assez peu de conflits à régler. Et les enfants, mais ils avaient leur territoire, leur petit refuge. Et puis, bah, il y a une dernière cour d'école à laquelle je pense. C'est celle de mon village, c'est celle où ira ma fille. Bon, il y a des talus à escalader, des pelouses, du sable, des petits cailloux, des arbres, voilà, les enfants s'y régalent. Les enseignants peut-être un peu moins, parce que, bah, notamment pour assurer la surveillance, en fait, il faut se répartir entre trois espaces, donc ça demande une certaine organisation. Voilà, bon. Maintenant, j'aimerais qu'on se pose un peu la question de savoir, mais à qui la faute de ce constat? Alors, premièrement, je vais parler des questions de sécurité et de responsabilité. Eh bien, pour illustrer ces questions, je vais vous raconter une petite histoire. C'était il y a quelques années, j'étais directrice dans une école maternelle et j'ai eu à monter un dossier qui était intitulé le DUER, c'est-à-dire document unique d'évaluation des risques. J'étais notamment chargée de dimensionner chaque élément de la cour qui pouvait représenter un risque potentiel. Et je devais ensuite présenter ce dossier à la mairie, puisque c'est en effet la commune, en tant que propriétaire et gestionnaire de l'école, qui est chargée de l'installation et de l'entretien de la cour. Et là, je vous cite à ce propos un extrait du règlement type départemental des écoles publiques, qui s'applique partout en France, et qui dit « L'aménagement et l'entretien des espaces extérieurs réservés aux élèves, ainsi que l'installation et l'entretien des matériels mis à leur disposition, relèvent également de la compétence de la commune. » Voilà, alors je me revois en train de faire le tour de la cour de récréation. J'étais accompagnée de deux agents communaux. Je pataugeais des deux pieds dans le principe de précaution. Alors je pointais gentiment chaque élément qui pouvait représenter un risque, plus ou moins imaginaire. Nous avons tout de même opté pour une certaine tolérance à l'égard de certains éléments. Non, la cour n'était pas uniformément plate, par exemple, et lisse. Mais quand même, planait au-dessus de nos têtes cette sorte d'épée de Damoclès qui est brandie par le spectre de parents malveillants prêts à porter plainte au moindre bobo de leur enfant. Alors, imaginez ce que j'aurais mentionné dans mon duaire si la cour avait été aménagée selon mes rêves les plus fous, avec des arbres pour y grimper, des buissons pour s'y cacher, des cordes pour s'y balancer. Voilà, est-ce que la mairie aurait trouvé un organisme disposé à homologuer de tels équipements? Oui, à ce propos, vous pourrez jeter un œil à un document de synthèse qui a été élaboré par la MAIF, qui est intitulé « Sécurité et responsabilité dans les écoles ». Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien. Voilà, donc y a une solution qui s'offrait à moi, c'était ne rien mentionner dans mon DUER, mais endosser toute la responsabilité. Alors, les enfants auraient sûrement profité des mêmes bénéfices que ceux de notre crèche naturelle, mais par contre, en cas de pépin, j'étais hors la loi et passible de sanctions auxquelles je n'ose même pas songer. D'ailleurs, est-ce que c'est si sûr? Alors, maintenant, j'ouvre un nouveau chapitre dans lequel je vais me demander si c'est pas aussi une affaire culturelle, tout ça. Et oui, parce que, comme souvent, en fait, on craint le pire. Mais si on se penche sur le cadre posé par la loi, et du coup j'ai eu à le faire très souvent quand j'étais directrice d'école, eh bien on se rend compte que tout n'est pas si figé. Je vous invite par exemple à jeter un œil au document inséré dans l'article que j'ai trouvé sur un site ministériel. Il précise le cadre en vigueur dont il faut tenir compte lorsque l'on aménage une aire de jeu. Alors j'y retrouve en fait surtout pas mal de bon sens. En gros, lorsque je réalise un aménagement collectif qui aura pour vocation à être utilisé par beaucoup d'enfants et très fréquemment, je cherche à éviter toutes les mauvaises surprises. Par exemple, les matériaux sur lesquels il est prévu que les enfants prennent appui, eh bien, ils ne doivent pas se casser ou ils ne doivent pas se détacher de façon spontanée. Par contre, rien n'empêche de mettre de l'herbe, rien n'empêche de semer à la volée quantité de fleurs des champs, d'implanter des bosquets, de disposer un tronc d'arbre au sol ou même des rochers, de conserver un talus en pente, d'accrocher une grosse corde à un arbre, ni même de permettre aux enfants de monter dans cet arbre. Mais par contre, bien évidemment, ça va être sous certaines conditions et selon certains aménagements, qui, en général, relèvent du bon sens et de la connaissance de l'enfant ou de réaction d'enfants en groupe, et ça nécessite bien évidemment une certaine surveillance des adultes. Ensuite, il s'agit d'intégrer ces aménagements dans un projet pédagogique, et puis de construire un travail collaboratif entre l'équipe enseignante, la mairie, les parents, l'équipe de circonscription, etc. Voilà, et c'est là que ça se complique. Parce qu'en effet, si de tels aménagements des espaces extérieurs de l'école, s'ils étaient culturellement acquis, chacun saurait déjà quel rôle jouer dans le projet, personne n'aurait rien à prouver, tout le monde serait confiant, y compris les parents d'élèves. Oui, mais voilà, la culture collective, elle n'envisage en premier lieu que des cours d'école les plus traditionnels possibles, goudron, toboggan, amorti sur un sol en gomme, platane, marelle tracée au sol et éventuellement un carré de pelouse dans lequel on ne va pas quand c'est mouillé. Voilà. Est-ce que j'exagère? Eh bien, moi je pense qu'il faudra du coup des générations de pionniers qui vont devoir se mouiller, se justifier lors d'interminables réunions, essuyer les critiques ou même le refus des plus craintifs, et rentrer bien fatigués le soir, hein, parfois à mon avis même à en rêver la nuit. Mais pourtant, eh bien j'ai le sentiment que ces pionniers sont déjà en route. Voilà, je me demande et si cela ne va pas changer bientôt. Et tout d'abord, on peut constater que la mode est à la biodiversité, et c'est tant mieux. Vous savez, ça a commencé avec le sommet de la Terre à Rio en 92. Ensuite, en 2010, par exemple, on a déclaré que c'était l'année de la biodiversité. Voilà, de plus en plus de projets fleurissent à droite à gauche qui visent à enrayer la chute de la biodiversité, ou du moins à sensibiliser l'opinion publique à cette question. Et puis, ben voilà, à cela s'ajoutent, ben, par exemple, des études qui viennent prouver à quel point l'homme a besoin de cette biodiversité biologique, y compris pour son propre équilibre, pour son bien-être. Et ben, petit à petit, il y a aussi des projets qui visent à faire entrer la biodiversité dans les cours d'école qui voient le jour. Alors bon, toutefois, la crèche suédoise de notre étude, elle n'avait pas spécialement pour projet de faire entrer la biodiversité à l'école, mais plutôt vraiment de faire vivre la nature aux enfants. Alors cela, bah, ça passait avant tout par une sorte de terrain d'aventure au naturel auquel les enfants avaient accès chaque jour, mais qui, malgré le piétinement, à mon avis, doit sûrement bien plus foisonner en biodiversité que nos bonnes vieilles cours d'école, je pense. Alors on peut se demander qui porte le flambeau de ces actions. Et il me semble que c'est plutôt du côté des écoles privées ayant un projet globalement tourné vers la nature qu'il faut chercher. Près de chez moi, dans la Drôme, je peux par exemple citer l'école des Amanins, qui a été fondée en 2004, notamment par Pierre Rabhi et Isabelle Peloux. À l'étranger, le terreau semble parfois plus fertile qu'en France, notamment dans les pays scandinaves ou germaniques, mais également aux États-Unis. En fait, c'est aux Pays-Bas que j'ai trouvé le plus de projets à ce sujet sur Internet. D'ailleurs, je vous propose un aperçu en images de cours d'école ayant ouvert leurs portes à la nature. J'ai créé un tableau Pinterest, donc je vous invite à cliquer sur l'image en dessous pour voir toutes ces photos de cours d'école nature. Et puis, ne l'oublions pas, il y a aussi de formidables initiatives dans certaines écoles publiques françaises. Alors, je les salue bien bas au passage, et je vous donne un exemple ci-dessous, là, enfin, pardon, dans l'article, d'un projet qui a été mené dans une école maternelle, avec l'accompagnement du Centre d'éducation à l'environnement Carder, qui est à Rouen. Donc, je vous laisserai jeter un œil au poster qui a été réalisé pour présenter cette très belle action. Et maintenant, je vais vous parler un peu de ce qu'en disent les programmes scolaires. Voilà, la mode est à la biodiversité, il était temps. Dans les écoles, bon, les sciences naturelles ont toujours été au programme, et il est depuis longtemps préconisé dans les programmes de prendre appui pour certains apprentissages sur l'environnement immédiat de l'école. Alors, est-ce qu'on parle de nature dans la cour de l'école, dans les textes officiels? Eh bien, oui. J'en faisais déjà état dans une précédente vidéo. Voici notamment ce que précise une circulaire qui est parue en février dernier et qui est intitulée Instructions relatives au déploiement de l'éducation et au développement durable dans l'ensemble des écoles et établissements scolaires pour la période 2015-2018. Alors voici ce que j'y ai trouvé. Afin de généraliser les initiatives visant au retour de la nature et de la biodiversité dans les écoles et les établissements, la création de coins nature dans les écoles est encouragée. Les coins nature est bien mis entre guillemets. Voilà, et ben moi je trouve que c'est déjà encourageant. On trouve aussi de plus en plus d'excellentes ressources documentaires. Donc c'est l'autre bonne nouvelle, c'est que pour les courageux qui souhaiteraient se lancer dans de tels projets, eh bien, il y a de plus en plus de ressources d'excellente qualité, des mines d'or d'idées, d'informations et même de séquences clés en main à mener avec ses élèves. Sans surprise, il s'agit souvent de travaux issus du milieu associatif. Donc, dans l'article, je vous propose trois dossiers que je recommande chaleureusement, qu'on peut en plus télécharger en intégralité et ce gratuitement. Donc il y a à l'école de la biodiversité qui a été réalisée par la FCPN, biodiversité dans ma cour d'école réalisée par le WWF et un coin de nature avec des jeunes qui a été réalisé par Good Planet. Je vous conseille également de faire un détour par le site de Biodiville, qui, je pense, recense la totalité des ressources disponibles sur la question. Enfin non, il en manque une. Bon, c'est-à-dire que, comme je le mentionnais plus haut, faire vivre la nature aux enfants, ça ne passe pas forcément par un projet sur la biodiversité. Même si par la suite, je doute pas que les enfants qui auront fait d'un coin de nature leur terrain de jeu auront ensuite de certaines prédispositions pour se sentir concernés par les projets sur la biodiversité. Donc voilà, une ressource dont je souhaitais vous parler, qui ne date pas d'hier. En fait, elle date d'une époque où l'école n'était pas encore entrée en mode planète clean, pour reprendre les mots de Louis Espinassou à propos du principe de précaution. Et en fait, il s'agit d'un dossier réalisé par les écoles Freinet sur l'aménagement des cours d'école, qui est extrêmement intéressant et très très fourni et avec plein de photos. Vraiment, je vous conseille de jeter un œil à ce dossier. Voilà. Alors, je constate aussi qu'il y a de plus en plus de parents comme vous, comme nous. Et pour qu'un renouveau ait lieu dans nos cours d'école, eh bien, il faut des enseignants motivés, il faut des municipalités ouvertes, mais il faut aussi des parents qui soient partie prenante. Bien sûr, en tant que parents, nous serons toujours soucieux de la sécurité de nos enfants, mais je pense que nous sommes de plus en plus nombreux à nous dire que cette sécurité, eh bien, elle ne passe pas forcément par un environnement duquel on est ôté absolument tous les risques, et encore moins duquel on est ôté la nature. Alors, faisons-le savoir autour de nous, soutenons les enseignants lorsqu'ils sont porteurs de tels projets, impulsons-les quand cela est possible, et surtout arrêtons de casser les pieds aux enseignants quand nos enfants rentrent de l'école avec de la terre sur ses chaussures ou avec des vêtements déchirés. En fait, finalement, s'il y a une campagne à mener, eh bien, c'est peut-être sur les vêtements d'enfants et l'usage qui en est fait. Voilà, peut-être qu'il s'agit d'un des freins culturels majeurs. Pour conclure, alors, depuis le début de cet article, bon, je pense que vous avez pu réfléchir. Alors, à quel cours d'école vous souhaiteriez, pour votre enfant? Eh bien, ça y est, la parole est à vous. Je vous propose, dans un premier temps, de choisir parmi les photos de cet article, donc elles sont numérotées de 1 à 10, laquelle représente le mieux cette cour d'école pour vous. Du coup, faites-nous connaître votre choix dans la rubrique des commentaires. Et puis, ben comme le choix des photos est tout de même restreint, n'hésitez pas à nous donner des précisions. Décrivez-la, cette cour d'école. Décrivez vos idées, votre projet. L'étape suivante, eh bien, ce sera de passer à l'action. Et oui, et vite, parce que ben, les cours d'école, nous les souhaiterions améliorer tant que nos enfants y sont encore, si possible. Voilà, eh bien, c'est terminé pour cet article. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.